De nouveau avec vous, de vous voir tous ici ce matin, et surtout que c'est un week-end prolongé. Normalement, tout le monde part. Et de ce fait, je suis très content que vous n'êtes pas partis. Et merci. Si je vous posais la question, combien de parmi vous étaient éprouvés depuis que vous avez accepté le Seigneur? Je suis sûr que toutes les mains seraient levées. Ça fait partie, après avoir accepté le Seigneur, il y a toujours les épreuves qui commencent et qui continuent pendant toute notre vie chrétienne. On peut se poser la question, pourquoi tant d'épreuves? Et c'est pour répondre un peu à cette question que nous allons regarder un verset que je vous propose maintenant à lire. Ouvrez votre Bible à 1 Pierre 1, 7. Où nous lisons, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et puis après, ce qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça, c'est votre verset pour la journée, afin que votre foi soit éprouvée, que l'épreuve de votre foi soit visible. Je crois que l'apôtre Pierre avait en tête les épées, parce que les épées, vous savez, étaient vraiment une œuvre d'art. Il fallait prendre le fer et le plonger dans le feu, le sortir, prendre le marteau et taper dessus, plonger dans le fer, dans le feu, sortir et taper dessus. Éprouvé par le feu, éprouvé par les coups de marteau. Vous savez, souvent on peut dire, voilà, j'étais dans le feu et j'ai senti les coups de marteau. Vous savez qu'il y a un verset dans la Bible que aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était pas humaine, mais le Seigneur ne vous permettra pas d'être éprouvé au-delà de vos forces. Vous dites, oui, mais la Bible dit tentation. Oui, mais le mot en grec peut être aussi traduit épreuve. Et je crois que là, dans ce verset, c'était plutôt l'épreuve que l'apôtre Paul avait en tête que la tentation. Qu'aucune épreuve, Dieu ne vous éprouvera pas au-delà de vos forces. Il ne tapera pas un coup de plus qu'il ne fallait. Il mesure toujours afin que l'œuvre qu'il va produire soit parfaite, que à la fin votre vie lui ressemble. C'est pour cela qu'il faut être éprouvé, parce qu'on n'est pas prêt. C'est l'épreuve de notre foi, parce que Dieu veut que notre vie soit de plus en plus profonde, une vie qui ressemble à la vie de Christ. Une vie de perfection en Christ, perfectionnée non pas par nos efforts personnels, mais perfectionnée par une obéissance totale à la volonté de Dieu à tout moment, suivant cette petite voix qui dit « tourne à droite ou tourne à gauche ». Oh, vous pouvez me demander « est-ce que je t'ai jamais éprouvé ?» Et je peux vous dire oui, à tel point que je n'ai pas sorti d'une épreuve que je n'étais pas dans la suivante. J'étais dur, hein? J'étais comme un cheval qui n'était pas dompté, hein? Oh, j'avais mes propres idées comment ça devait marcher, et ce n'était pas les mêmes que celles du Seigneur. Je me rappelle une fois, on allait dresser une tente pour faire de l'évangélisation. On a sorti tout, la tente était dressée. Et aussitôt, c'était en automne, l'hiver est venu, mais brusquement, d'un moment à l'autre, c'était tout d'un coup une vague de froid terrible. Alors, bien sûr, personne n'est venu. Deuxième soir, personne n'est venu. Troisième soir, personne n'est venu. Alors, j'ai démonté la tente. J'étais fâché avec Dieu. Je lui dis, c'est pas la peine que je monte la tente si tu envoies un froid comme ça. Oh là là, c'est... Ne me regardez pas avec un air trop pieux, parce que je suis certain que vous êtes fâché avec Dieu des fois aussi. Hein? Et le Seigneur, il fallait du temps, hein? Mais après, je me suis repenti et j'ai été restauré. Le Seigneur ne nous abandonne pas, même si on se fâche des fois. Mais il faut quand même arriver un jour où on accepte l'épreuve sans se fâcher. Vous savez qu'il y a les gens qui se fâchent à tel point, les chrétiens, je parle de ceux qui connaissent le Seigneur, ils se fâchent tellement qu'ils disent, oh non, dans ce cas-là, je ne retourne plus à l'église. J'ai entendu ça plus d'une fois. Oui, peut-être parce qu'ils ont perdu un être cher, peut-être les affaires sont tournées mal ou quelque chose de ce genre. Avec, voilà, je ne retourne plus, c'est fini. Et si Dieu est comme ça, moi je l'abandonne. Vous savez que c'est au fur et à mesure que les épreuves me sont venues, parce qu'il en a fallu beaucoup, hein, mais c'était dur à revenir vraiment sous la houlette de Christ. Mais j'avais comme un héros Job. Oh, quel homme! Je l'ai admiré toujours. Dieu a enlevé d'abord tous ses biens, tous les bétails, tout ce qui lui appartenait. Puis après, tous ses enfants. Et puis, après tout cela, des amis qui sont venus le consoler et qui étaient là tous les jours. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout ça, hein? Mais avoue-le, hein? Tu dois être un pécheur premier. Hein? Alors, peut-être avec d'autres femmes, peut-être tu as retenu des veuves, ce que tu devais donner, tu as maltraité des orphelins, oh là là, il était l'homme le plus horrible qui existait d'après ses trois amis qui sont venus le consoler. Mais chaque fois, Job a dit, le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris, béni soit l'Éternel. Oh, c'est comme ça qu'on doit l'accepter. Parce que si les preuves viennent, c'est pour nous perfectionner. Et au fur et à mesure qu'on accepte sa volonté et on est conforme à sa volonté, tout d'un coup, notre vie devient une vie merveilleuse, une vie convoitée par tout le monde, une vie qui porte du fruit. Il est monde, la branche qui porte le fruit, pour qu'il porte davantage de fruits. Oh, quand on voit des chrétiens qui ont marché avec le Seigneur pendant 50 ans, 60 ans, souvent, s'ils avaient été toujours prêts à accepter les épreuves comme il faut, vous trouverez un homme ou une femme avec lesquels vous aimerez toujours être avec eux. Parce que d'eux coulent des fleuves d'eau vive. Oh, c'est comme ça qu'on doit désirer vivre avec des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein à la bénédiction de tous ceux qui nous entourent. Les épreuves ne sont pas toujours les mêmes, ne viennent pas toujours de la même façon. Par exemple, Abraham, sa première épreuve, c'est quand le Seigneur l'a appelé à quitter son pays, quitter tout ce qu'il connaissait. Il avait certainement les désirs, les projets, les plans pour l'avenir. Et puis tout d'un coup, le Seigneur dit, quitte ton pays et va dans un pays que je te montrerai. Il n'a même pas dit lequel. Vends tout et pars. Vous savez, quelquefois, le Seigneur vient dans notre vie et il coupe tous nos projets il taille en pièces tout ce que nous avons projeté. C'est dur. Je me rappelle ce qui est arrivé un jour. J'étais dans la maison où habitait Caroline. Je n'aime pas employer des illustrations avec la personne présente, mais elle est là, je crois, quelque part, ici, dans l'auditoire. Alors, j'étais assis à côté d'elle et j'ai parlé de mon désir de voir une équipe de jeunes qui vient en France avec moi et qui se mettrait avec des jeunes Français pour former des équipes, pour évangéliser. Et au fur et à mesure que j'ai parlé du grand besoin de la France, le peu de gens sauvés et combien le besoin était grand, tout d'un coup, elle commençait à pleurer. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui s'est passé. C'est qu'à ce moment, le Seigneur a dit, tu pars avec lui. Alors, Abba, tous ses plans, tous ses projets, tout ce qu'elle avait échafaudé pour sa vie était à plat. Et elle a dit, je viens quand vous partez. Et après cela, il y en avait 4 autres qui se joignent à elle. Et donc 5 jeunes, et ma femme et moi, dans le navire pour partir pour la France. Pour joindre une toute petite équipe de Français. Et alors, c'était le commencement de notre œuvre dans le sud-ouest de la France. Et ce sont ces jeunes qui ont fondé des églises un peu partout. Quand on est obéissant à Dieu, Dieu fait des miracles avec nous. Mais quelquefois, c'est dur parce que ça veut dire tout changer, tout remettre entre ses mains et partir. Après cela, Abraham est allé dans le pays et sa vie était mise en danger. Il risquait la mort. Là, il n'a pas tellement bien réussi l'examen. Hein. Là, l'épreuve. Mais Dieu l'a pardonné et il a continué. Heureusement, Dieu nous pardonne. Heureusement, Dieu nous pardonne et nous restaure. Autrement, qui serait là ce matin, hein? Alors, après ceci, il était avec son neveu. Et le pays était là devant eux, mais le troupeau était trop nombreux. Dans la vallée, tout était vert. C'était joli, irrigué partout. Et alors, qui allait choisir la plaine? Qui allait rester dans les montagnes? Lot a dit, je choisis la plaine. Il s'est dirigé vers Sodome et Gomorre. Et Abraham est resté sur les hauteurs. Vous savez qui a gagné à la fin? C'était Abraham et non pas Lot. Mais c'était une épreuve qu'il devait passer. Après cela, Dieu lui a dit, tu auras un fils et tu auras une postérité plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Oh là là, il avait 75 ans à ce moment-là. Sa femme avait 65. Il a dû se dire, voilà, mais il faut que ça soit un miracle maintenant pour qu'on ait un enfant. Donc, après avoir reçu cette merveilleuse promesse de la part de Dieu, il attendait son fils l'année suivante. Mais l'année suivante, il n'y avait pas de fils. Bon, alors, deuxième année à la rigueur quand même, hein? Deuxième année, pas de fils. Troisième année, pas de fils. 25 années. Et puis finalement, le fils promis est venu. Quand Dieu nous promet quelque chose, il ne nous dit pas quand ça sera accompli. Vous dites, mais est-ce que c'est une épreuve? Et comment? C'est une épreuve extraordinaire. Parce que là, vous attendez tous les jours, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je le sais. Je me rappelle quand Dieu m'a appelé à Paris. J'étais à Toulouse. Il a dit, voilà, tu auras un local, tu auras une église à Paris. Ah oui? Je suis monté 700 kilomètres, je retourne 700 kilomètres, je retourne 700 kilomètres. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, un an, un mois et demi, deux ans avant que j'ai trouvé. La promesse était là, mais l'épreuve de l'attente est terrible. L'épreuve de l'attente de croire Dieu, que si Dieu l'a dit, il le fera. Il faut attendre et ne pas abandonner, mais continuer avec lui. Et finalement, le fils est venu. Et alors, lui, âgé comme il était, la vie derrière lui, finalement, les épreuves terminées. Et non, c'était le pire de toutes les épreuves qui l'attendaient. Maintenant que le fils est grand et que toutes les promesses de Dieu résident en lui, tu vas l'offrir comme un sacrifice. Vous savez, on ne sait jamais quand la plus grande épreuve va venir dans notre vie. Mais si on reste près de lui, Dieu viendra à notre secours. Et quand il a élevé le couteau pour le plonger dans le cœur de son fils, Dieu a dit « Arrête ». Pourquoi Dieu a demandé qu'il offre son fils? Parce qu'il adorait son fils. Ce fils qu'il a attendu pendant 25 ans, c'était tout pour lui. C'était son idole, c'était sa vie qui allait continuer. Et maintenant, il devait l'offrir. Vous savez, souvent, Dieu touche l'idole de notre vie pour savoir qui est-ce qu'on aime le plus, la chose ou la personne ou Dieu. Et là, c'était venu à la fin de sa vie. Et il a passé l'examen à merveille. Oh, que chacun de nous puisse passer l'examen à merveille. Quand l'épreuve va venir, celle qui vraiment est le pire de toutes. Pourquoi tout cela? Pour faire de nous des instruments valables entre ses mains. Un instrument que quand il dit « va par là », l'instrument ne dit « non, attends, c'est pas par là, c'est niveau de mieux que j'aille par là ». Non. C'est un instrument que quand Dieu dit « va par là », oui Seigneur, j'y vais. Fais ceci et il le fait. Il est de l'argile entre les mains du Seigneur pour faire un vase à son honneur. Alors, mais ce n'est pas tout. Il y a une autre raison pour toutes ces épreuves dans notre vie. Vous connaissez Pikes Peak? Pikes Peak, c'est une montagne en Amérique, en Colorado. C'est près de Denver. Alors là, les gens aiment grimper cette montagne. Elle est plate comme ça, et puis ça monte tout de suite. Hein? Et il y a un chemin, et on peut monter. Si on a le courage, c'est deux fois la hauteur de la tour Eiffel. Alors, bon courage. Alors, les gens aiment quand même. Et il y avait deux pasteurs qui se trouvaient là, au pied de cette montagne, un jour. Et l'un disait à l'autre, allons-y. Alors, ils partaient, ils grimpaient. Et puis, ils arrivaient à mi-chemin. Et là, il y avait une hôtellerie. Une auberge là-bas, mi-chemin, oh là là, c'était merveilleux. Alors, il y avait une place tout autour, on pouvait admirer tout le paysage. Dedans, bien, il y avait de quoi boire, de quoi manger, les gens parlaient, ils jouaient aux jeux, n'est-ce pas? C'était une sorte de camaraderie extraordinaire, parce que quand même, tout le monde a grimpé la hauteur de la tour Eiffel quand même, hein? Alors, ils étaient là, tout contents. Mais après cela, ils ont dit, mais allons jusqu'en haut. Alors, quand ils sont partis, ils ont remarqué qu'il y avait un peu moins de monde. Hein. Au fur et à mesure qu'ils sont allés, il y avait de moins en moins. Mais finalement, ils ont atteint la hauteur. Et ils ont regardé la splendeur de tout ce qui était là, en haut. Puis l'un disait à l'autre, vous savez, en pierre en sept, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, même s'il soit éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Vous vous souvenez, quand on a commencé, oh, il y avait beaucoup de monde qui grimpait. Beaucoup de monde qui grimpait. Oh, quelques-uns ont décidé de descendre. Ils ne sont pas allés très haut dans la vie spirituelle. Il y a les gens qui grimpent un peu. Et puis, sachant qu'il faut céder cela, ou il faut, Dieu leur demande de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et il y a des pépins qui arrivent dans leur vie. Oh, ils disent, voilà, je vais descendre. Je vais descendre, ça va. Ils sont allés à une certaine hauteur. Mais pas le courage d'aller plus loin, pas la spiritualité d'aller plus loin. Puis, il y a les autres qui sont allés jusqu'à l'auberge, jusqu'à l'hôtellerie, là. Il a dit, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à ceux qui ont grimpé jusqu'à être membres de l'église locale. Là, alors là, ils sont vraiment acceptés. Ils ont donné une bonne confession de foi. Et ils avaient été fidèles, baptisés, connaissant la Bible. Et puis, surtout, la communion fraternelle. Alors là, ils sont bien dans l'Église. Ils sont très bien dans l'Église et tout le monde attend le jour où ils peuvent voir leurs amis de nouveau, leurs frères et sœurs en Christ. Puis tout d'un coup, il y en a un qui dit, « Et si on allait plus haut? » Oh, écoute, hein, moi, d'aller plus haut, ça... On est bien ici quand même, hein? On n'a pas besoin d'aller plus haut quand même, hein? C'est... Non, tu ne veux pas venir avec moi? Non, non, non. Alors, normalement, on part tout seul plus haut. À la recherche de quelque chose de plus. On n'est pas satisfait simplement d'être membre d'une église. On veut connaître Christ d'une manière beaucoup plus intime. On veut faire des sacrifices. On veut aller jusqu'à même perdre sa vie s'il faut. On veut vraiment que sa vie compte pour Dieu. Et on grimpe et on grimpe et des épreuves par épreuve jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Il a dit, vous savez, les premiers, c'est pour la louange. Quand ils arrivent à voir le Seigneur face à face, ils auront la louange. Parce qu'au moins, ils ont démarré. Ils sont arrivés à certaines hauteurs. Ceux qui étaient à l'hôtellerie, à eux la gloire. Mais à ceux qui sont allés jusqu'en haut, ceux qui étaient prêts à perdre leur vie, qui témoignaient autour d'eux, qui étaient prêts à souffrir s'il fallait, mais qu'il fallait qu'ils connaissent Christ et qu'ils aient une vie qui vraiment compte pour lui, alors eux, c'est l'honneur. À eux, ce sont les couronnes. C'est les paroles bien faites, bons et fidèles serviteurs. C'est à eux qu'ils vont s'asseoir tout près de Christ à la table. C'est à eux qui sont les honneurs de régner avec lui, d'avoir les places d'autorité. C'est à eux qui ont gagné la hauteur. Oh, que chacun de vous, chacun de nous, ait envie d'aller plus haut. La montagne, est-elle trop haute, au fait? Elle est trop haute pour vous? L'hôtellerie, ça vous suffit largement? Est-ce qu'il y a quelques-uns qui disent non? J'aimerais plus que ça. J'aimerais vraiment connaître Christ et la puissance de ça, la force et la communion de ses souffrances. Je veux vraiment m'adapter à Christ. Avant de terminer, j'aimerais dire un mot de plus. Vous savez que sur la pente, quand on commence à grimper, il y a des gens qui grimpent qui ne sont pas sauvés. Vous savez que Jésus a dit un jour une parabole où il est question de l'ivraie qui pousse à côté du blé. Vous savez que l'ivraie ressemble comme deux gouttes d'eau au blé. Hein? Et les serviteurs ont dit, est-ce qu'on doit arracher tout de suite l'ivraie? Le Seigneur dit, non, laisse-les croître ensemble. Et à la fin, on décidera lequel c'est lequel. Malheureusement, mes chers amis, dans l'Église de Christ, il y a de l'ivraie. Des gens qui grimpent. Je connais les gens qui sont allés très loin. Ils connaissent la Bible, portent la Bible, prient. Ils sont là. Et vous dites, mais ils sont sauvés. Non, ils ne sont pas sauvés. Ils ont l'air d'être sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Dans la famille de ma femme, il y avait un homme que je connaissais bien. Et je l'aimais bien. Et il était diacre dans l'église, une bonne église. C'est là où je suis allé. Et un jour, il y avait un évangéliste qui est venu. Il a prêché, il a donné l'appel. Il a dit, qui veut être sauvé? Alors, cet homme, diacre de l'église, a levé la main. L'évangéliste ne l'a pas vu. Donc, il a donné l'appel une deuxième fois. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Il lève la main une deuxième fois. C'est arrivé trois fois. L'évangéliste ne l'a jamais vu. Après la réunion, il était déterminé d'être sauvé. Alors, il est allé dans le bureau du pasteur et là se trouvait l'évangéliste. Il a dit, je me suis levé la main trois fois. Vous ne m'avez pas vu, mais moi, je veux être sauvé. Le pasteur était choqué. C'était diacre. C'est pas possible. Il a dit, oui, je ne suis pas sauvé. Il a dit, je connais tout. Je peux prêcher même l'évangile s'il fallait. Je connais tout, mais jamais j'ai accepté Jésus vraiment dans mon cœur. Ce soir-là, il a ouvert son cœur à Christ vraiment et il était vraiment sauvé. Comment je le sais? Parce qu'il a il a été changé complètement. Après cela, il rayonnait. Il avait une joie qui débordait. Il voulait parler de Jésus, ce qui n'était jamais prêt avant. Il avait tout sauf une chose, l'Esprit de Christ. Il n'avait pas l'Esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. On peut porter une Bible, connaître tous les cantiques par cœur, citer des versets, etc. Si on n'a pas l'Esprit de Christ en nous, on ne lui appartient pas. Des fois, ça se découvre dans la vie présente. Par exemple, dans notre église ici, il y avait plusieurs que j'ai baptisés même, qui étaient membres de l'église. Et par la suite, on a découvert qu'ils n'étaient pas sauvés. On ne découvre pas toujours ici. Mais à l'apparition de Christ, on saura qui sont vraiment ceux qui sont sauvés et ceux qui ont joué la comédie, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ. Peut-être ce matin, Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre, ou d'aller plus loin, si vous n'êtes pas sauvé, de vouloir être sauvé. J'aimerais qu'on chante ce matin, tel que je suis sans rien.